Bonjour et bienvenue au Temps Machine, que nous remercions pour son accueil exceptionnel. Merci à Antonin qui est quelque part ici, qui a géré toute la technique pour Métier Culture. Donc, je suis Jean-Noël Bigotti, je suis coordinateur de la plateforme Métier Culture. Derrière vous, il y a Jérémy qui travaille avec moi sur Métier Culture. Voilà. Métier Culture est un projet porté par la FRACAMA et soutenu par la région Centre-Val-de-Loire. C'est la plateforme Emploi, Formation, Compétences, Culture. Donc, on œuvre avec une série de partenaires dont certains sont ici, à savoir Artefact, Cyclique, un je ne sais quoi, des formations d'Issoudun, le plateau, un certain nombre de structures comme ça qui nous soutiennent. On est donc une plateforme liée à l'emploi, à la formation, aux compétences, et c'est un outil mutualisé. La réflexion sur la mutualisation traverse le secteur culturel depuis quand même pas mal de temps, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose autour de ce sujet-là. Donc l'an dernier, on avait fait une rencontre au mois d'avril sur la réforme de la formation professionnelle, et cette année, la thématique, c'est sur la mutualisation. Mais évidemment, la mutualisation qui va au-delà de tout ce qui est mutualisation. Donc, Métier Culture se construit autour de quatre axes qui sont un cadre de concertation permanente entre acteurs, un accompagnement du développement économique via l'innovation sociale, une stratégie collective liée à l'accompagnement et à la formation, ce qui nous permet justement d'avoir un certain nombre d'acteurs de la formation et de l'accompagnement en région qui sont avec nous comme accompagnateurs, comme soutien, et de la ressource et de l'observation. Donc cette rencontre rentre dans le domaine à la fois de l'innovation sociale et de la ressource et de l'observation de l'être utilisé. Métier Culture, comme je le rappelais, est un outil qui a été largement conçu comme un outil mutualiste, des compétences autour de l'accompagnement de projets, de l'ingénierie de formation, etc. Donc aujourd'hui, la rencontre mutualisée-mutualisant, qui est sous-titrée « Mode de gouvernance et statut juridique lié à la mutualisation », on va essayer de trouver des éléments de réponse aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser, sous quelle forme ? Comment on met en place ces formes de mutualisation et les points d'attention, de vigilance, les écueils possibles. Donc, d'une part, l'idée, c'est d'avoir des informations sur le mode de fonctionnement, mais aussi des réponses à des questions. Donc, c'est pour ça que par rapport à un certain nombre de choses, il ne va pas falloir hésiter à poser des questions, sachant qu'on a un découpage de la journée qui est fait de deux façons. C'est-à-dire que le matin, jusqu'à 13h, c'est les enjeux et les formes, donc les statuts juridiques, les différentes formes de mutualisation, et l'après-midi, on est beaucoup plus dans l'application pratique et concrète. Au niveau des intervenants qui sont avec nous, il y a M. Sébastien Nérault, qui est le directeur de France Active du Centre-Val-de-Loire et responsable de l'antenne des SCOP, Société Coopérative de Production, donc l'Union Régionale des SCOP. On a Arnaud Fièvre, qui est coordinateur du Capsule Collectif, qui est un coopératif de musiciens implanté sur Tours et en région centre, sur des domaines de musique qui vont du jazz, la noise, le free jazz, etc. Enfin bref, toutes des dynamiques contemporaines et aussi musique urbaine. Arnaud va devoir nous quitter en fin de matinée. Du coup, on va faire une petite entorse à ce que je vous disais sur la mise en place, etc., pour qu'il puisse parler de son expérience au niveau de la coordination de capsules collectives dans le cadre de cet outil dédié aux musiciens. On a Emmanuel Douda, qui est le co-gérant d'Artefact, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, donc il aura largement l'occasion d'en parler. Et on attend Caroline Dumas, qui est la directrice de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui elle va pouvoir parler des groupements d'employeurs, etc. Donc, on a cette rencontre qui est sur la mutualisation dans le secteur culturel. Donc, je lui ai parlé pendant un petit moment, histoire de poser les choses. C'est bien que vous ayez eu beaucoup de café. Donc, le secteur culturel est paradoxalement multiple. Il est imbriqué dans le cadre d'interdépendance, mais aussi traversé par des dynamiques de singularisation. C'est-à-dire que, effectivement, chacun on a nos structures, mais en même temps, on a des spectacles singuliers ou des activités qui sont vraiment particulières, et en même temps, on recherche de travailler avec les autres dans le cadre de cette interdépendance. On sait que les difficultés rencontrées dans un cadre de baisse de subventions, de financement de l'emploi, etc., peuvent encourager des volontés d'individualisation pour survivre. Mais l'objet de cette rencontre, c'est plutôt de montrer comment des actes de coopération et de mutualisation peuvent renforcer notre secteur. Toutefois, la mutualisation, c'est pas une baguette magique. Hein. C'est pas parce que vous allez mutualiser que tout va se résoudre. Et on verra au cours de la rencontre différents aspects que peuvent revertir là ou plutôt les formes de mutualisation, avec également les écueils ou les réflexions préalables nécessaires. La mutualisation, c'est un moyen de développer sa structure sans la faire grossir. Et pour beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs, c'est une réflexion qui est importante, de savoir qu'on peut développer des activités sans forcément passer des seuils au niveau du nombre d'employés, etc. Donc c'est quelque chose qui ressort énormément dans les réflexions sur la mutualisation au niveau des entrepreneurs. La mutualisation, c'est qu'une seule réponse, des multiples réponses au contrôle des finances d'une structure, aux possibilités d'organiser le travail, les collaborations interacteurs, intersecteurs. Actuellement, le secteur culturel est traversé par trois phénomènes. On a l'augmentation du nombre de structures culturelles et des propositions artistiques. On a la stagnation des financements publics et la fragmentation de l'emploi dans les TPE culturelles. Du coup, on a une professionnalisation qui implique des besoins renforcés en personnel qualifié sur des sujets de plus en plus pointus, sans forcément une capacité d'embauche à plein temps. Et là, vous voyez venir le sujet de la mutualisation par rapport à l'emploi. Une tentative de définition. La mutualisation, ce n'est pas une forme juridique. Ça ne correspond pas à une forme juridique, c'est plutôt un acte de coopération entre acteurs animés par des motivations similaires. Même si, selon les secteurs artistiques, comme le théâtre par exemple, les enjeux de la mutualisation divergent selon qu'on soit une compagnie ou un lieu de diffusion. Et je pense que c'est valable aussi pour d'autres secteurs culturels. Toutes les actions de mutualisation qu'on fait ne conduisent pas nécessairement à la création d'un dispositif ou d'une nouvelle entité. On va voir qu'il y a des formes qui sont pas du tout encadrées juridiquement, mais qui sont plutôt de l'ordre de l'action commune. Bref. Et on retrouve la mutualisation dans de nombreux secteurs. L'agriculture, on a fait beaucoup. Notamment, on parle des CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. La logistique aussi, pour savoir que, par exemple, Dior ou L'Oréal ont une plateforme logistique commune. Pourtant, ils sont concurrents sur le marché, mais ils ont une plateforme logistique commune qui leur permet ensuite d'avoir, une fois arrivés devant les portes de magasins, chacun reprend son cheminement commercial, etc. Donc, dans le secteur culturel, on parle de plus en plus de coopétition, un mélange de coopération et de compétition. Dans le cadre de structures concurrentielles qui décident de collaborer autour de projets, de matériel et de moyens humains. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre mutualisation et coopération ? Alors, je parle peut-être un peu vite, mais je vous rassure, il y a l'enregistrement de cette session, grâce au bon soin de Jérémy, sera après mis en ligne. Donc, pour les absents ou les personnes qui vont partir plus vite que prévu, il y aura une possibilité d'écouter les podcasts, donc, je sais pas, moi, par exemple, un mur en chaux ou du bricolage. Spécial dédicace à Philippe. Donc, la différence entre mutualisation et coopération. Marie Degnaud, qui est une chercheuse, a fait un rapport de recherche sur une nouvelle pratique de mutualisation et de coopération dans le secteur culturel, sur lequel je me suis beaucoup appuyé avec d'autres documents d'Opal et de l'Avise, pour organiser cette rencontre. La mutualisation, dit-elle, fait référence à la mise en commun d'un actif matériel ou immatériel. Il en résulte l'idée d'un objet unique. Une information, une connaissance, une idée, un emploi, un bien, un espace, un projet, un service, un pot commun, partagé entre une pluralité d'acteurs. Alors schématiquement, la mutualisation, ça renvoie à soit aux notions de rationalisation et de réduction des coûts, logique essentiellement budgétaire, soit au principe d'échange, en fonction d'apports librement définis, de réciprocité, en fonction des apports qu'on peut recevoir, d'entraide et de solidarité. La coopération, c'est dans une dynamique plutôt interorganisationnelle, se rapporte à la notion de projet commun et s'inscrit dans la famille des actions collectives, qui inclut par ailleurs le partenariat, la collaboration, voire le lobbying. Coopérer, c'est agir ensemble, travailler ensemble. Alors, en général, de manière délibérée et volontaire. Donc la coopération, ça ne se réduit pas simplement à la mise en commun de ressources ou à des interactions uniquement. C'est plutôt lorsque les personnes ont la volonté de travailler ensemble, en s'interrogeant sur les finalités de leur rapprochement. Donc on peut aussi voir que la mutualisation, c'est une des premières grandes étapes qui peut mener ensuite à une coopération ou à des coopérations, même si dans les formes de coopération, il y a beaucoup d'activités de mutualisation ou mutualisées. Le dénominateur commun, c'est donc le projet, en fait, qu'il soit ponctuel ou à long terme, et le fait d'agir ensemble. Coopération, ça désigne également un comportement opposé à celui de la concurrence, de la compétition, l'opportunisme, et c'est relié à des principes de réciprocité, dont on parlait il y a quelques instants, d'échange et de bienveillance, dans le sens où il ne faut pas avoir d'action nuisible par rapport aux autres, pas de renoncement non plus à des actions bénéfiques aux autres, et donc c'est une sorte d'auto-inter-évaluation par rapport aux apports que chacun peut faire. certaines pratiques de mutualisation, on le voit, peuvent aussi se réduire uniquement à l'utilisation d'un outil ou au sein d'un lieu, des formes de cohabitation. On pense parfois à des pépinières qui sont juste des lieux où on vient et on se pose, on peut travailler, ou des espaces de coworking, forcément, qui est d'interaction. Mais c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup au niveau des outils de mutualisation, c'est le fait de sortir de son isolement en tant que structure et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et on aura l'exemple tout à l'heure avec Arnaud ou Emmanuel qui pourront parler de comment les actions qu'ils mènent au sein de leur structure peuvent permettre de créer des dynamiques d'échange, de coopération, etc. Donc le fait de se rencontrer, ça peut aussi générer des activités supplémentaires. Et ce n'est pas les collectifs ici présents qui diront le contraire. On s'aperçoit que la mutualisation, le plus souvent, c'est un moyen de réduire la précarité. C'est une logique de réduire aussi de pérenniser les emplois, sécuriser les parcours professionnels et développer une éthique commune, une philosophie, une nouvelle façon de concevoir le dynamisme d'un territoire. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir les formes de mutualisation. La première, c'est la mutualisation de ressources. Que ce soit des matériels ou des locaux. Je mets à disposition un local dans lequel on va pouvoir héberger des structures, etc. La seconde, c'est l'utilisation de personnel ou de compétences, donc à travers des groupements d'employeurs, par exemple. Et la troisième forme de mutualisation, c'est une mutualisation financière, avec des apports financiers par rapport à différentes actions qu'on peut faire, une sorte de pot commun financier qui permet d'avoir une garantie solidaire. En tout cas, c'est clair que c'est les projets qui restent le fil rouge de la mutualisation. Donc, chaque structure ou personne apporte ses compétences, ses réseaux, sa capacité à mener à bien un projet à travers des équipes pluridisciplinaires. Donc, la diversité des visions et des compétences va permettre de répondre à de nouveaux projets ou d'en créer, comme les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, c'est bien ça. La mutualisation peut concerner donc la prod, la production, la diff, la diffusion, la communication, l'administration. Mais c'est marrant, il y a un endroit où la mutualisation apparaît très peu. C'est sur les achats, il n'y a pas de centrale d'achat dans le secteur culturel. Et également, c'est très difficile d'arriver à trouver des chargés de diffusion, des gens qui vendent des spectacles, qui soient mutualisés entre plusieurs structures. Le seul cas qu'on ait actuellement en région, c'est une compagnie qui s'appelle Bobine, etc., qui est au 108, qui a mutualisé un emploi de chargé de diff avec une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie éponyme. Là, on voit que la mutualisation fonctionne parce qu'on est sur deux secteurs qui sont parfois concurrentiels, mais sur une très très faible marge ou frange de secteurs, et beaucoup plus sur des endroits où il y a une complémentarité, même si on est dans le même lieu. Pour Philippe Henry, qui est un chercheur en sciences sociales, lui distingue trois formes de mutualisation. La mutualisation simple, qui est la forme la plus fréquente, avec juste la mise en commun de ressources, partage de moyens matériels, locaux, ou de compétences ou de réseaux. Alors lui, il met les compétences dans la mutualisation simple. On la retrouve dans les réseaux professionnels constitués ou informels. Donc, par exemple, l'essaim est un moyen de faire de la mutualisation de compétences ou de créer un réseau informel. Cécile Pelletier, ici présente, pourra en parler tout à l'heure, évoquer quelques mots par rapport aux dynamiques de l'essaim. Ça peut aller, cette forme simple, jusqu'à la mutualisation plus poussée des fonctions support liées à la recherche de coproducteurs, à la mise en commun de supports administratifs, voire d'équipements, type matériel, sono, etc. La mutualisation double, c'est la mutualisation simple plus un partage des risques. Et comme par exemple les groupements d'employeurs peuvent être cet exemple de partage des risques avec une solidarité, responsabilité solidaire. Ça peut être aussi dans le partage des risques, l'accompagnement d'artistes par des structures culturelles qui s'impliquent dans des projets de fabrication, donc de production déléguée ou d'expérimentation. Alors, ça peut être les paniers culture par exemple, vous en avez entendu parler, ou les associations pour le maintien d'une activité culturelle de proximité, les AMAC. Donc c'est typiquement ce genre de choses. La triple, donc c'est la simple plus la double, plus les recettes de la notoriété, c'est-à-dire les résultats. C'est certains fonds mutualisés pour la création et la diffusion. Par exemple, on a un fonds qui s'appelle Créafonds en Aquitaine, qui mutualise les finances et les compétences via une garantie solidaire. Ça peut être aussi les grappes d'entreprise, les clusters. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme dans le mode de fonctionnement. On verra ce que c'est, de toute façon, on l'abordera ensuite. Qui sont plus sur des dynamiques territoriales, voire sectorielles. Alors, ça, c'est les différentes formes, donc, selon Philippe Henry, celles que nous, on a identifiées. Maintenant, ce qui reste clairement, ce qu'il faut clairement regarder, c'est les formes. C'est sûr, mais les objectifs et les niveaux de mise en commun. Jusqu'à quel niveau on est capable de faire de la mutualisation et de la coopération au niveau des ressources? C'est une première interrogation qu'il faut avoir. Et aussi à l'échelle d'un territoire, qu'est-ce qui est mutualisable? Donc ça nécessite aussi d'avoir une réflexion préalable par rapport à toutes les actions de mutualisation. Dans les écueils possibles, alors ici non plus, ils sont multiples, hein. Bien évidemment, il y a aussi le politique. Alors, il y a un contexte de mutation et de changement qui accélère les obligations de repenser les modèles organisationnels, et il y a des injonctions relatives de nos tutelles pour, du genre, mutualiser. Comme ça, ça permettra de faire des économies. Alors, c'est un peu des injonctions contradictoires, parce qu'en même temps, on est censé développer des activités culturelles, animer un territoire, et en même temps, on demande d'utiliser des emplois, donc de potentiellement réduire le nombre d'emplois nécessaires sur un territoire pour mener beaucoup d'actions. Donc c'est des injonctions contradictoires. Patricia Andriot, du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, parle de deux risques majeurs par rapport à ces aux collectivités et aux acteurs culturels. Donc la première crainte pour elle, c'est budgétaire. Comme la culture, ce n'est pas une compétence obligatoire, souvent, ce n'est pas reconnu comme un investissement, les lignes budgétaires dédiées aux acteurs culturels, ça résulte d'une volonté politique. Je vous rappelle qu'il y a des élections régionales qui ont lieu il y a quelques temps, il suffit juste de regarder les programmes politiques au niveau de la culture des différents, les programmes culturels des différents partis politiques, pardon, pour savoir que certains n'étaient pas du tout fans de culture. Le second risque, c'est pour elle toujours, c'est la justification abusive de la culture comme une économie. La culture est source d'emploi, de valeur ajoutée, mais si on se retranche juste derrière cette justification, au lieu de faire vivre des territoires, etc., c'est aussi dangereux dans une période actuelle où on va nous renvoyer le fait que vous devez être rentable, vous devez avoir le même fonctionnement que des structures entrepreneuriales de base. Donc, en réaction à toutes ces mutations, la plupart des acteurs culturels s'engagent dans des politiques de mutualisation et de coopération. Colin Lemaitre, qui était responsable d'une structure qui s'appelait Culture et Coopération, qui a un pôle, je pense, de pôle territorial de compétences économiques, je ne sais plus, sur Saint-Étienne, a précisé que dans une interview, il disait que ce n'est pas les logiques de survie qui entraînent les meilleures initiatives de coopération. C'est clair que, encore une fois, ça nécessite d'avoir une réflexion préalable sur ce que vous êtes en capacité et pas de devoir forcément réagir par rapport à une injonction de baisse de moyens ou une injonction de volonté de développer parce qu'il y a moins de sous, etc. Ce qui est ressorti à chaque fois, c'est que c'est vraiment un fonctionnement, la mutualisation, la coopération, c'est un fonctionnement de confiance. Et c'est peut-être une des choses les plus importantes à mettre en avant. Et on verra ça avec Elsa de la Grande Régie, Elsa Maupeu, cet après-midi sur la charte qu'ils ont mis en place par rapport à justement cette relation de confiance au niveau de structure, voire d'une éthique commune et d'une philosophie. Donc ça prouve quand même qu'il faut absolument un positionnement des collectivités territoriales pour accélérer les dynamiques quand même, même si on a des formes d'injonction à mutualiser obligatoirement. Dans les écueils possibles, les acteurs eux-mêmes, c'est un des trucs qu'on peut voir aussi, le fait de mutualiser, de coopérer, puisque je rappelle que le secteur culturel est une économie basée sur l'échange réciprocitaire non marchand, donc du bénévolat et de l'échange non monétarisé de moyens de compétences. On avait fait une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour la FRACAMA, et on s'était aperçu que la plupart des adhérents de la FRACAMA fonctionnaient sur un triptyque qui était un tiers de bénévolat, un tiers de ressources propres et un tiers de subventions. Donc on voit bien que le bénévolat et les changements monétarisés peuvent potentiellement prendre une place de plus en plus importante au sein des structures. Néanmoins, l'économie de la culture doit aussi réussir à évoluer dans un contexte de plus en plus concurrentiel, et donc là, c'est la chance et la force des structures culturelles, c'est ce qu'on appelle l'agilité, c'est la petite taille, l'adaptabilité, la flexibilité, la simplicité d'organisation, le tissu local. Mais en même temps, on est limité aussi dans ce que je pointais tout à l'heure, c'est la limite au niveau des ressources humaines, économiques et les capacités organisationnelles et entrepreneuriales. Bon, les petites structures ne peuvent pas avoir l'ensemble des compétences nécessaires. Et du coup, elles fonctionnent en réticulation. J'adore ce terme. Donc, c'est la mise en réseau. Le networking. Je vais utiliser ce terme plus tard. Oui, je fais de la réticulation régulièrement. À travers une succession de projets à chaque fois limités. Donc, Philippe Henry, le grand sociologue, parle d'interdépendance collaborative qui se double d'une concurrence, puisqu'on a une tension contradictoire où il faut tendre vers une organisation générale coopérative, tout en permettant le développement et la qualification de pratiques hautement singulières et diversement valorisées. Alors, comment dépasser la compétition pour entrer vraiment dans les politiques de coopération et mutualisation? Alors, le partage de moyens et de projets, c'est clairement ce que je disais tout à l'heure. Je disais, c'est que la mutualisation de moyens matériels, d'outils, de services, de locaux, de manières techniques ou bureautiques, logiciels, logistiques, supports de communication, je pense que tout ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Gabriel Potin du 108 peut aussi nous en dire un mot, puisque le 108 est un lieu d'administration à Orléans, mais c'est aussi un lieu de production, d'utilisation de moyens et d'échanges, des ressources professionnelles qui a vocation à favoriser les logiques collaboratives. C'est sur le site du 108. Parfait, merci. Donc on est typiquement dans ce genre de ressources, de mutualisation de ressources et voire de moyens ou de compétences en fonction des projets qui peuvent être menés en interne. Essain, c'est un réseau informel qui structure de plus en plus et qui est aussi dans ces logiques d'échange et de valorisation de projets et de construire sur un territoire donné qui est le territoire Toronto. Jo, merci. Voilà. Donc,